Bonsoir à tous. Donc, ça fait maintenant plusieurs années que Lutte ouvrière tient un stand à la Fête de l'Humanité à l'invitation du Parti communiste. Le 38e congrès du Parti communiste se tiendra fin novembre. Dans les colonnes de l'Humanité, on a pu lire différentes contributions et la question du communisme est en discussion au sein de la direction. Alors nous nous réjouissons que les militants du Parti communiste s'interrogent sur la perspective communiste au XXIe siècle. C'est bien sûr plus riche de perspectives que de savoir si oui ou non il faut s'effacer derrière la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. À notre manière, à travers ce débat, nous voulons aussi aborder cette question. Le succès de la Fête de l'Humanité repose sur l'activité de ces militants, de leur ténacité à militer dans une période que nous savons difficile où la bourgeoisie mène l'offensive. Ce succès nous fait aussi du bien, car quand on se promène dans les allées, déjà pour accéder à la fête, n'est-ce pas ? Donc, quand on se promène dans les allées, nous qui militons pour changer cette société, qui voulons défendre le camp des travailleurs, et bien, d'une certaine manière, on se sent chez nous, hein, parmi les nôtres. Et donc, à ce titre, l'évolution du Parti communiste nous concerne. Dans la base commune présentée par la direction du Parti communiste dans cette, comme contribution, on peut lire que le Parti communiste français est confronté à une difficulté historique au lendemain de l'épuisement du front de gauche. Alors oui, c'est vrai, des difficultés, il y en a. On ne se réjouit pas du recul du Parti communiste, même s'il ne nous étonne pas. Car ce recul n'est pas qu'électoral. Il se traduit par la disparition de cellules communistes dans nombre d'entreprises, dans des quartiers. Et leur absence manque, car ce sont les idées réactionnaires, les militants communautaristes, les intégristes religieux qui souvent ont pris la place. Alors qu'est-ce qu'être communiste au XXIe siècle ? Le bilan que le Parti communiste doit faire ne remonte pas seulement à son alignement derrière Mélenchon avec le Front de gauche, puis la France insoumise. Depuis des décennies, c'est-à-dire en gros depuis les années 30, il a cessé d'éduquer les militants dans une perspective révolutionnaire. Il a éduqué des générations de militants dans une perspective électoraliste. Plus récemment, il a soutenu Mitterrand, Jospin, Hollande et Mélenchon, faisant croire que tout dépendait de l'élection d'un tel ou d'un tel. On voit aujourd'hui quelle impasse politique cela représente. Les institutions de la bourgeoisie, sa démocratie, ses parlements, ne sont qu'un voile qui cache à peine, et de moins en moins d'ailleurs, la dictature de la bourgeoisie. Les actionnaires des grands groupes capitalistes imposent leurs lois à toute la société. Et quel que soit l'élu à la présidence de la République, quelle que soit la majorité parlementaire, leurs intérêts seront sauvegardés. Gouvernement de droite ou de gauche, leurs affaires ont prospéré et les conditions des classes populaires et des travailleurs, elles, n'ont cessé de se dégrader. La présence des ministres communistes sous Mitterrand ou Jospin n'y a rien changé. Et comme disait Rosa Luxembourg il y a déjà maintenant un certain temps, à propos d'un certain Millerand, un socialiste dans le gouvernement bourgeois de l'époque, l'entrée des socialistes dans un gouvernement bourgeois n'est donc pas, comme on le croit, une conquête partielle de l'État bourgeois par les socialistes, mais au contraire, une conquête partielle du Parti socialiste par l'État bourgeois. Si les idées réformistes ont pu trouver un certain crédit dans des périodes d'essor, de prospérité, époque où la bourgeoisie, grâce à l'exploitation des colonies, grâce au pillage impérialiste, avait du grain à moudre, aujourd'hui, avec la crise, laisser croire qu'on peut empêcher les capitalistes de nuire sans remettre leur domination en cause, sans révolution sociale est une illusion. Un texte alternatif présenté par 300 communistes a l'ambition de rompre avec cette stratégie électorale. Il faudrait, pour citer un exemple, il faudrait, selon les 300 signataires, s'inspirer de l'exemple de la sécurité sociale, du salaire à vie des fonctionnaires ou encore de la séparation des églises et de l'État. Ce que Mars puis Jaurès, d'après cette plateforme, appelait une révolution révolutionnaire jusqu'à la conquête du pouvoir de l'État. Alors présenter la sécurité sociale comme révolutionnaire est un comble. On ne met pas vraiment la même chose derrière les mots communiste et révolutionnaire. L'état de la bourgeoisie ne changera pas progressivement de nature par des concessions accordées aux travailleurs ou par des mesures comme la sécurité sociale, mesures qui arrangeaient la bourgeoisie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand il a fallu reconstruire le pays. Le mouvement ouvrier est pollué par le réformisme depuis plus d'un siècle. L'État n'est pas au-dessus des classes sociales. Il n'est pas arbitre. Son armée, sa justice, sa police sont là pour défendre avant tout les intérêts de la classe dominante. L'État défend l'ordre social bourgeois. Il est là pour défendre la propriété privée des moyens de production. Et on ne peut pas convaincre la bourgeoisie de limiter l'exploitation des travailleurs. La seule chose qui a pu la freiner est le rapport de force que les travailleurs ont pu instaurer à certaines époques, comme en 1936 ou 68. Alors, être communiste, ce n'est certainement pas être réformiste. Et être communiste n'est pas compatible avec le nationalisme sous toutes ses formes. Les frontières ne protègent pas les travailleurs. Au contraire, elles les divisent. Selon leurs besoins, les patrons savent ériger des barrières douanières ou les supprimer pour faire fructifier leurs capitaux. En quoi taxer les produits importés est favorable aux travailleurs? Au bout du compte, ce sont les classes populaires qui payent la facture par l'augmentation des prix. Quant à croire que le produire français que le Parti communiste a défendu favoriserait l'emploi, c'est une illusion. Les travailleurs embauchés dans des grands groupes français comme Renault ou Carrefour sont-ils plus protégés que ceux de Ford ou Toyota? Bien sûr que non. Ces grands groupes se portent bien et suppriment des milliers d'emplois. Alors peu importe la nationalité des travailleurs qu'ils exploitent, peu importe où sont implantées leurs usines, ce qui compte pour les capitalistes, c'est combien ça leur rapporte. La bourgeoisie veut nous enchaîner à ses intérêts, nous faire croire que lorsqu'elle se porte bien et qu'elle s'enrichit, c'est bon pour nous. Eh bien non, entre ouvriers et patrons, aucune entente possible. Le capitalisme, c'est la jungle. Les bourgeoisies des différents pays se livrent une concurrence féroce à l'échelle du monde. On le voit bien dans la guerre commerciale qui oppose, entre autres, Trump à l'Union européenne. À deux reprises, au XXe siècle, les rivalités impérialistes ont débouché sur des guerres mondiales. La bourgeoisie a prôné l'union sacrée et développé sa propagande nationaliste pour envoyer des millions d'hommes sur les champs de bataille afin de s'assurer un meilleur repartage du monde. Le nationalisme, qu'il soit défendu par Le Pen, Mélenchon ou le Parti communiste, reste une tromperie pour les travailleurs. Il les divise, obscurcit leur conscience de classe en les détournant de leurs propres intérêts. Le patriotisme économique, comme le nationalisme, sont un poison à combattre. Les travailleurs n'ont pas de patrie et leurs seuls ennemis sont les exploiteurs. Alors oui, être communiste, c'est être internationaliste. L'internationalisme prolétarien est bien autre chose que la simple solidarité humaniste envers d'autres peuples. En effet, la classe ouvrière ne pourra s'émanciper et renverser définitivement le pouvoir de la bourgeoisie et réorganiser l'économie qu'à l'échelle internationale. La classe ouvrière, qui la première engagera le combat dans son pays, déclarera la guerre à la bourgeoisie mondiale. Et elle ne pourra l'emporter que si la révolution devient contagieuse, en particulier dans les citadelles des pays impérialistes qui maintiennent dans la dépendance et la pauvreté une grande partie de l'humanité. Et puis, au fond, être communiste, c'est être convaincu que la seule force sociale qui peut abattre ce système... Pardon, d'abord, c'est être convaincu que tous les maux dont souffre l'humanité, justement, ont pour origine le système capitaliste. La crise économique, le gâchis que représente le chômage qui touche toutes les familles, toutes les générations, toutes les régions, les guerres auxquelles on assiste et qui s'étendent du Moyen-Orient au Sahel et peut-être demain en Asie, ainsi que les millions de personnes qui migrent pour fuir ces guerres ou pour fuir la misère, ainsi que l'inquiétante montée des idées réactionnaires en Europe, le racisme et la xénophobie, tout cela, sans parler de la menace écologique qui pèse sur la planète, toutes ces crises sont les symptômes d'un système qui se décompose, qui pourrit sur pied et qui risque de nous engloutir. Alors oui, être communiste, c'est être convaincu que la seule force sociale qui peut abattre ce système, c'est la classe ouvrière. La classe ouvrière n'a pas besoin de sauveur. Du fait de son rôle dans la production et l'économie, c'est la seule classe qui peut s'attaquer à la racine même des problèmes, à l'organisation capitaliste de la société. C'est sur elle, sur son travail, que repose toute la société. Et sans elle, rien ne fonctionne. Être communiste, c'est défendre auprès des travailleurs l'idée que le changement ne peut venir qu'une explosion sociale, que de leur action consciente et collective. Et pas seulement pour améliorer leurs conditions de vie ou leur salaire, mais pour abattre ce système d'oppression, pour prendre le pouvoir et construire un État ouvrier 1000 fois plus démocratique que la démocratie bourgeoise. Un État ouvrier qui mettra un terme à la propriété privée des moyens de production. Alors oui, il faudra organiser l'économie sur d'autres bases. Il faudra mettre en commun les richesses, hein, organiser l'économie pour les besoins et non pour le profit. Et la planification de la production de biens utiles sera un outil formidable pour répondre rapidement aux besoins de tous. Les moyens technologiques, les compétences humaines, les moyens informatiques, scientifiques, les moyens de transport permettraient sans problème à chaque habitant de la planète de vivre dignement, de s'épanouir sans la peur du lendemain. Et c'est seulement dans ce cadre qu'on pourra tenir compte de l'environnement et privilégier des choix qui respectent la nature. Car on ne peut pas avoir une planète en bon état dans une société en mauvais état. Être communiste, c'est condamner la dictature stalinienne, qui est à l'opposé de la démocratie ouvrière. C'est s'inscrire dans le combat du courant trotskiste qui a combattu le stalinisme dès son origine. La plupart des membres de ce courant, des militants de trotskistes, ont été massacrés dans les camps. Trotsky a péri assassiné pour n'avoir jamais cédé. Mais il a pu ainsi transmettre un héritage politique irremplaçable, le seul programme marxiste révolutionnaire qui propose une perspective de lutte politique fondée sur la conviction que seule la classe ouvrière peut renverser le capitalisme et transformer la société à l'échelle du monde. Pour conclure, avant de passer la parole à mon camarade, je dirais qu'être communiste, c'est aussi être conscient qu'il est nécessaire et vital de reconstruire un parti communiste sur la base des perspectives tracées par Trotsky. Car si la classe ouvrière, par le rôle qu'elle a dans la production, par son nombre, par sa force, par le fait qu'elle est présente sur tout le continent, et la seule force capable de changer la société, il faudra pour qu'elle s'émancipe, qu'elle retrouve la conscience de ses propres intérêts. Et pour cela, elle doit se doter d'un parti qui se donne comme objectif de diffuser ses idées révolutionnaires dans le monde ouvrier, parmi les employés, les ingénieurs, les ouvriers, parmi les chômeurs, dans tous les quartiers populaires. Un parti qui soit prêt à s'opposer à la bourgeoisie jusqu'au bout, sur le plan des idées, sur le plan idéologique, qui rejette son nationalisme, et un parti que rien n'attache à la classe capitaliste, à ses institutions, et qui soit prête à l'affronter. À sa fondation, c'est la perspective que se fixait le Parti communiste lors de son congrès à Tours. Et les militants des années 1920 du Parti communiste ont rejeté la société bourgeoise. Ils dénonçaient les guerres coloniales que faisait l'impérialisme français, au Maroc notamment. Et pas simplement dans les paroles, mais dans les actes. Mais ce combat communiste a été abandonné. Le Parti communiste est devenu réformiste. Avec le Front populaire, dans les années 30, il s'est aligné derrière la SFIO qui, elle-même, était au service de la bourgeoisie. Alors oui, il faudra que les militants du Parti communiste tirent les leçons de ce bilan. Des trahisons qu'il y a eu dans les années 30, dans les années 40, au lendemain de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50... quand le Parti communiste soutenait tous les régimes dictatoriaux qu'il y avait dans les démocraties populaires. C'est à ce prix, justement, qu'on pourra peut-être, on l'espère, un certain nombre d'entre eux se poseront la question de la perspective communiste telle qu'on se la pose.
Alors, pour ma part, je voudrais intervenir à propos du piège politique dans lequel se débattent aujourd'hui et depuis longtemps, bien des militants ouvriers et plus généralement tous ceux qui se réfèrent à la gauche. Bon, la situation politique actuelle, vous le savez tous, hein, est marquée par le fait qu'en même pas un an et demi, Macron s'est rendu odieux au monde du travail. Hein, l'arrogance anti-pauvre ouverte de leur chef, toutes les mesures anti-ouvrières qu'ils ont prises au gouvernement, les macronistes, n'ont échappé à personne. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en conséquence, tout le petit monde politicien se met en quête d'une alternative à Macron. La gauche aussi, hein. C'est-à-dire la gauche, c'est-à-dire les bouts qui résultent de l'éclatement du PS, enfin tout du moins ceux qui n'ont pas rejoint Macron, les mélenchonistes de la France insoumise et aussi le Parti communiste. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que se discute dans ces partis la question des élections européennes. Mais de notre point de vue, ce n'est pas ça qui est en question. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est à quoi cela servira de construire une alternative de gauche à Macron ? Ce serait une alternative à la personne de Macron, bien sûr, mais pas à la politique anti-ouvrière qu'il mène au service du grand capital et sûrement pas une alternative à la domination que la grande bourgeoisie exerce sur les entreprises, l'économie et l'État. Or, remplacer Macron par qui que ce soit d'autre ne mettra pas fin au pouvoir de l'argent et de la classe capitaliste. Rappelez-vous qu'avant Macron, c'était un président élu avec le soutien de tous les partis de gauche, Hollande, qui gouvernait. Et les travailleurs n'en gardent pas un très bon souvenir. Alors, cette soumission des hommes qui arrivent au pouvoir, aux intérêts de la grande bourgeoisie, est une conséquence de sa domination sur l'économie. C'est ce qui explique que tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 40 ans, même quand leur étiquette politique et leur électorat pouvaient laisser croire le contraire, n'ont fait qu'attaquer la classe ouvrière pour faire croître les profits du patronat dans une période où l'économie est entre crise et stagnation. Les politiciens passent, mais l'État reste au service des capitalistes. Tout du moins, tant qu'il n'est pas renversé. Et c'est pour cette raison-là qu'à Lutte ouvrière, nous sommes réformistes et non pas, nous sommes révolutionnaires et non pas réformistes. La récente démission de Hulot, qui a politiquement proclamé son impuissance, tout ministre d'État qu'il était face au lobby, c'est-à-dire face aux puissances d'argent, autrement dit face au capital, doit donner matière à réflexion à ceux qui pensent qu'un homme ou une femme politique doté de solides convictions peut, au gouvernement, s'opposer à la volonté de la bourgeoisie. Alors, à 63 ans, Hulot a découvert ce que tout révolutionnaire sait depuis longtemps. Hein. Et évidemment, Hulot, bon, étant ce qu'il est, n'en a pas tiré de plus amples conclusions de son échec. Et bon, il a trouvé même le moyen de regretter que lorsque les dossiers sur l'écologie arrivaient sur le bureau du Premier ministre ou du Président, ils étaient enterrés, hein, laissant entendre que ce qu'il suffirait de placer à ces hauts postes des gens de conviction pour que les choses changent. Mais toute l'expérience de la gauche au pouvoir montre que de tels espoirs, surtout l'espoir que l'État mène une politique en faveur des travailleurs, ont toujours été vains. Les gouvernements de gauche sous Mitterrand au début des années 1980, sous Jospin à la fin des années 1990 ou plus récemment sous Hollande, même inaugurés par des discours comme « Mon ennemi, c'est la finance », ont tous amèrement déçu leurs électeurs ouvriers. Cela, quelles que soient les multiples combinaisons d'union de la gauche qui ont été essayées, hein, et même quand toutes les composantes de la gauche ont été associées, comme sous Jospin, avec aux côtés des socialistes, les chevènementistes, les écologistes, et même Mélenchon et des ministres communistes comme Marie-Georges Buffet. Les faux espoirs de changement électoral que nombre de militants ouvriers, membres des partis de gauche, syndicalistes ou associatifs, ont propagés parmi les travailleurs ont été démentis par la réalité de la politique menée par ces gouvernements. Au point que la différence entre une politique de gauche et une politique de droite a perdu toute signification. Hein, il suffit de voir l'effondrement piteux de Hollande l'an dernier. C'est ça qui a déboussolé les milieux populaires, ouvrant des perspectives électorales à l'extrême droite et permettant au banquier d'affaires Macron, appelé au pouvoir par ce même Hollande, de tirer profit de la confusion politique avec un positionnement ni gauche ni droite, ou bien de gauche et en même temps de droite. Ce qui est le pire, c'est que les militants ouvriers qui ont défendu devant les travailleurs l'idée qu'il suffisait de voter pour amener la gauche au pouvoir et que cela serait la seule voie pour en finir avec l'exploitation se sont ensuite retrouvés à devoir assumer cette responsabilité. Or, le discrédit de la gauche n'a pas frappé que des ministres et des députés, bon, dont la carrière nous importe peu, mais aussi des militants communistes, des militants de la CGT, des associations populaires, dont beaucoup se sont démoralisés, découragés et ont même cessé de militer. Ce qui a contribué à faire de la présence de militants politiques défendant les idées communistes quelque chose de bien trop rare dans la classe ouvrière. Et pourtant, les dirigeants du Parti communiste se sont évertués à renouveler sans cesse cette politique, ayant renoncé depuis bien longtemps à la perspective d'un renversement révolutionnaire de la bourgeoisie. Ils l'ont fait avec Mitterrand, qui était capable, avant d'être élu, de tenir des propos de meeting sur la rupture avec le capitalisme, et n'en a bien sûr rien fait au pouvoir, ce qui a contribué à l'affaiblissement durable du PC. Et ils l'ont refait plus récemment avec Mélenchon, un admirateur de la méthode Mitterrand, ayant aussi comme but de siphonner l'électorat du PC et du PS au profit de ses ambitions. Mais avoir une grande gueule et répéter sur tous les tons que les choses changeront le jour où il y aura dans le fauteuil de l'Élysée un président ayant le courage de s'opposer à Merkel ne fait que masquer la soumission à la grande bourgeoisie dont le pouvoir n'est jamais contesté. De plus, et c'est de Mélenchon dont je parle, l'accent donné au nationalisme français anti-allemand, quand ils ne le virent pas à l'accusation contre les travailleurs étrangers détachés qui sont accusés de voler le travail des autres, est particulièrement détestable. Car désigner comme source des problèmes de chômage et de bas salaire l'Allemagne, l'Europe, la Roumanie, les États-Unis, la Chine et je ne sais quoi d'autre, sans même faire la distinction entre la bourgeoisie et la classe ouvrière de ces pays, ne fait qu'éloigner les travailleurs de la nécessaire lutte de classe contre les capitalistes qui en sont responsables et qui bénéficient de l'aide constante de leur État national. Il n'est pas vrai que l'État français fasse exception en la matière. Comme les autres, il ne fait que protéger le grand capital, jamais les travailleurs, quelles que soient les majorités électorales. Seuls les travailleurs ont la force de se protéger eux-mêmes des méfaits du capitalisme. Alors, nous adressons les mêmes reproches, d'ailleurs, aux dirigeants du PCF, qui ont depuis longtemps défendu le patriotisme dans la classe ouvrière, trahissant l'internationalisme marxiste, bon, qui était pourtant mis immédiatement en avant par Marx, hein, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », et qui ont ouvert la voie hein, à Mélenchon, qui se vante aujourd'hui de faire manifester sous les couleurs bleu-blanc-rouge et au son de la Marseillaise. Et d'ailleurs, il faut remarquer que sur ce terrain, c'est plutôt Le Pen qui finit par rafler la mise. Alors il semblerait qu'à présent, la direction du PCF en ait soupé de Mélenchon. Alors ce qu'elle lui reproche avant tout, c'est de s'être servi du PC comme marchepied sous la bannière du Front de Gauche pour se bâtir un socle électoral tout en traitant le PC comme un paillasson dont on se débarrasse après usage. C'est malheureusement ce qui s'est réellement passé. Mais il faut dire que cela s'est passé alors que la direction du PC connaissait parfaitement le but de Mélenchon et savait d'expérience que Mitterrand avait fait pareil en son temps. Hein. D'ailleurs, à l'époque, hein, je parle des années 70 ou 80, la grande gueule de Marchais, hein, qui faisait d'ailleurs plaisir à entendre quand il claquait la gueule à des journalistes de droite ou à des politiciens de droite, mais sa grande gueule, elle n'avait fait que couvrir la mise à disposition du PS de Mitterrand de l'énergie et de l'influence des nombreux militants ouvriers du PC qui se sont ensuite discrédités quand les travailleurs ont subi les attaques de la gauche au pouvoir après 1981. Alors aujourd'hui, ce décrocher de Mélenchon, dont elle a vanté pendant des années les qualités de leader et dont elle a voulu faire un nouvel espoir des électeurs ouvriers, est une opération délicate pour la direction du PCF. Mais s'en détourner pour lorgner sur les restes du PS qui gravitent autour de Hamon, ancien ministre de Hollande, c'est stérile du point de vue des intérêts des travailleurs. Cette politique-là, elle a déjà été pratiquée et a invariablement donné les mêmes fruits amers, décourageant au bout du compte les militants du Parti communiste. Alors ceux qui n'ont cependant pas perdu courage et qui veulent continuer à militer en direction de la classe ouvrière, ils sont devant un choix. Ou bien ils se mettent à fabriquer une nouvelle opération de faux espoirs et gaspillent leur révolte, leur énergie militante, à rapprocher du pouvoir des politiciens au discours de gauche, mais entièrement la dévotion de la bourgeoisie, ou ils reviennent à la lutte de classe. Que valent les phrases creuses sur l'égalité, la justice sociale, la solidarité, si elles mènent au gouvernement, même si elles mènent au gouvernement, dans un monde où les capitalistes comme Bolloré, Arnault, Pinault gagnent en une heure ce qu'un ouvrier gagne en une vie? Dans un monde où ces grandes fortunes ferment des usines si elles leur rapportent juste un tout petit peu moins qu'avant? Dans un monde où ces milliardaires ont toute liberté d'investir leurs capitaux dans des opérations boursières déstabilisant les monnaies, l'économie, les finances de pays entiers, répandant la guerre, la misère, la famine? Dans un monde mettant en péril la survie de l'humanité en dévastant l'environnement pour faire du profit, Bah, demandez à Hulot ce que valent ces belles phrases. Alors tous les 5 ans, c'est vrai qu'on peut changer 500 députés, 40 ministres et un président. Mais qu'est-ce que ça change au sort des travailleurs? Il n'y a aucun sauveur suprême qui puisse protéger les travailleurs de l'avidité de la classe capitaliste. Et même si la Constitution changeait et que les pouvoirs du président soient amoindris, est-ce que cela changerait quoi que ce soit à la dictature que la bourgeoisie exerce sur la société? Car c'est là le nœud du problème. Les communistes révolutionnaires depuis Marx et Lénine savent que leur action politique doit avoir comme but le renversement de la bourgeoisie et de son État. Et c'est de cela qu'il faut faire prendre conscience aux travailleurs. Alors les militants ouvriers, ils ont bien d'autres choses à faire que de servir de marchepied à des politiciens qui ont besoin de l'électorat ouvrier pour satisfaire leurs ambitions électorales. Ils ne peuvent pas se contenter de demander aux travailleurs, comme le disait Lénine, de choisir quel membre de la classe dirigeante les foulera aux pieds une fois au pouvoir. Armés des idées communistes, internationalistes et révolutionnaires, ils doivent se donner comme tâche de faire renaître les idées de la lutte de classe et de les propager au sein de leur classe sociale, dans les entreprises et les quartiers populaires. La cause politique qui mérite tout l'engagement, tout le dévouement des militants qui veulent se consacrer aux intérêts des travailleurs et au renversement de cet ordre social basé sur l'exploitation, c'est d'œuvrer pour la renaissance de la conscience d'appartenir à la seule classe sociale qui produit tout, qui porte toute la société, qui met en œuvre tous les progrès techniques, la classe ouvrière, et qui a donc le présent et l'avenir de la société entre ses mains. Il n'y a jamais trop de militants ouvriers pour défendre la perspective d'un monde débarrassé des parasites du travail humain que sont les capitalistes, pour convaincre les travailleurs qu'ils ont la force, par leur nombre et par leur position centrale de la production, de le faire, et pour défendre l'idée marxiste fondamentale que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.